Je passe maintenant à la présentation de Saskia Sassen, de notre conférencière du soir. Saskia Sassen est sociologue. Elle est professeure de sociologie à l'Université de Chicago. Je donnerai quelques éléments de son parcours. Elle est docteur en sociologie de l'Université de Notre-Dame, professeure de sociologie à l'Université de Chicago, je l'ai dit, et professeure de sciences économiques à la London School of Economics. Saskia Sassen est spécialiste de sociologie urbaine. Ses travaux portent sur les villes globales, mais également sur la question des migrations, du féminisme, des technologies de l'information ou des inégalités sociales. Saskia Sassen a écrit de nombreux articles dans des revues spécialisées nationales et internationales. Elle participe d'ailleurs assez souvent en écrivant des articles pour des journaux, des revues comme Le Débat ou Le Monde Diplomatique. Et je note pour les publications à venir qu'elle participe au numéro spécial qui sortira en novembre du journal Esprit, qui sera consacré aux migrations pour lesquelles elle fera un article. Et pour ce qui est des ouvrages, très peu de ces ouvrages, hélas, sont traduits en français. Comme elle me le disait tout à l'heure, ils sont traduits en allemand, en chinois, mais très peu en français. Et donc, pour ce qui est de la traduction en française, je renvoie à La Ville Globale, New York, Londres, Tokyo, qui est paru en 1996 aux éditions Descartes. Saskia Sassen, je vous cède donc la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi suivra un débat de 20 minutes avec le public. Je vous remercie.
Bonsoir, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici. Je m'excuse déjà parce que mon français c'est vraiment élémentaire, mais je crois que c'est mieux quand même le français que l'hollandais, ou je me trompe. Je suis hollandaise, mais je trouve ça formidable, une dimanche, et c'est aussi la fin de la Tour de France. C'est du héroïsme bourgeois. Peut-être Flaubert dirait. Je veux parler d'un aspect très particulier de le moment que nous vivons aujourd'hui. Et j'ai deux slides, c'est multimédia, mais c'est plus texte, alors ce n'est pas des images. mais le fait que nous vivons dans un temps où il y a de grands pouvoirs qui en plus se formalise et dans ce processus de formalisation cherche de se rendre légitime. Il y a aussi une condition, je trouve, et spécialement dans les États-Unis, dans la Grande-Bretagne, beaucoup moins à la France, où l'État dont rien et rien, non, pas rien, de moins et moins aux citoyens. Alors, c'est une époque quand même où le citoyen, l'immigré, même l'immigré autorisé, se trouve dans un espace politique formel qui est plus et plus contraint. Il y a moins et moins à y avoir. La mondialisation a quelque chose à faire avec ça. Mais la mondialisation aussi, autant qu'elle déstabilise le pouvoir formel de l'État, génère de possibilités de politique, même pour le gens le plus pauvre, le moins favorisé, le plus défavorisé. Et c'est ça un peu que je veux parler. C'est un domaine du politique qu'on pense souvent que c'est du pré-politique, parce que ce n'est pas formalisé. Ce sont des acteurs et des formes de la politique pas formalisées. Et je trouve que ça, justement de ces conditions de la mondialisation, où il y a d'une partie ces nouvelles formes du pouvoir formalisé, et de l'autre côté, une espèce de shrinking, comment je dis ça ? Que l'État national donne de moins et moins, dans cette espèce d'espace blanc, d'espace abandonné, pour ainsi dire, il y a la possibilité de nouveaux acteurs politiques. Comme chercheur, je dois me demander où est-ce que ça devient légible, où est-ce que moi je peux trouver ça. Je trouve que dans les grandes villes, des espaces très complexes de la ville, des espaces un peu anarchiques, ça devient légible. Ce que devient légible, c'est-à-dire ce sont des politiques informelles, de nouveaux acteurs informels. Une grande demande, c'est si ça c'est en effet le début de nouvelles pratiques politiques, de nouvelles formes du politique, que c'est pas seulement le pouvoir qui change, mais c'est aussi la condition de n'avoir pas de pouvoir, et que la condition de la manque de pouvoir, c'est quand même une condition aussi dynamique. On n'est pas simplement de victime. Alors c'est un peu ça que je veux parler aujourd'hui. C'est un espace politique pas facile de dessiner, de trouver. Et ce que je veux faire aujourd'hui, c'est une espèce de narration, si on veut, une rhétorisation, de trouver la manière de raconter l'histoire de cette émergente politique de défavoriser dans un contexte de mondialisation. C'est pas facile de le voir, c'est pas facile de le trouver. Beaucoup de gens peut-être ne le voient pas. Je suis toujours prête à recevoir beaucoup de critiques. C'est mon histoire un peu. Un genre comme le président Bush, cette penseur politique en profondeur, ne le comprendrait pas. Il ne saurait pas de ce que je parle, mais vous savez, c'est comme ça. Alors, pour faciliter la communication, je vais lire. Je fais ça vraiment jamais. Et quand je parle dans un milieu un peu académique, je pense on parle tout en latin. Alors, mais maintenant, ici, je trouve quand même que c'est un peu plus un défi. Alors, je vais lire. Ce que je n'aime pas faire, je ne suis pas bonne à lire non plus, mais comme ça, je peux communiquer d'une manière plus effective. Alors, je commence, et vous voyez tout ça aussi, avec la notion que sous cette logique du pouvoir politique économique de plus en plus institutionnalisé qui domine nos sociétés, émergent néanmoins de dynamiques sociales qui permettent aux groupes marginalisés et défavorisés de développer de formes diverses de revendications. De nouveaux types d'acteurs politiques voient le jour, qui modifient la relation entre État et individu. Il y a là aussi un troisième acteur, que c'est une espèce d'émergente société civile qui commence à se mondialiser aussi. À lire pour moi, il y a une espèce de triangle là. Certains de ces acteurs ne sont pas formalisés et pourraient être qualifiés comme de pré-politiques. Mais pour moi, c'est très important de le considérer comme de modes politiques informels ou non encore formalisés. Aujourd'hui, je trouve que le système politique formel offre de moins en moins de choix aux citoyens et aux émigrés. Les villes ont une longue histoire pour ce qui est de la politique informelle, la street politics. Je ne crois pas qu'il y a de mon français pour street politics, même si vous en faisiez beaucoup ici en France. Vous avez la politique au niveau de la rue. Je suis toujours avec beaucoup d'admiration avec comment on fait ça ici en France. Mais il semble qu'il n'y a pas de mot pour ça, je crois. Le contenu, les objectifs, le promoteur et acteur de ces politiques ont changé dans le temps. Il y était divers il y a 100 ans de ce que c'est aujourd'hui et 30 ans de ce que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, les villes globales constituent des espaces très spécifiques. On sait qu'elles rassemblent en un seul espace complexe, d'une part, à la fois le secteur le plus mondialisé du capital et les nouveaux professionnels transnationaux, et d'autre part, un nombre croissant d'immigrés et de citoyens marginalisés. Alors il y a vraiment deux présences de plus en plus définies qui sont aux deux pôles extrêmes opposés. Et pour moi, la ville globale, c'est aussi un espace où ces deux forces, qui sont des amalgamations, ce sont des hybrides, des combinations très très diverses à chaque côté, peuvent devenir de forces sociales. Alors c'est pas d'un côté la classe de travailleurs syndicalisés, c'est une espèce de mélange de gens défavorisés ou des minorités militarisée, comme le lesbien et le queer aussi. Ce n'est pas seulement le genre totalement pauvre, disons. Et d'autre côté, le capital mondialisé, qui est très digitalisé, électronique, globalisé, élusif, devient dans le moment où il habite, pour ainsi dire. Je crois que c'est une île, pas une aile, mais un peu. Ça, c'est à voir encore. Le capital mondialisé, il devient, dans ce moment où il habite, le moment urbain, disons, il peut devenir une force sociale d'une manière beaucoup plus concrète de ce qu'on a vu dans le passé. Et moi, j'ai fait beaucoup de travail sur ça, mais ça, ce n'est pas ce que je veux parler aujourd'hui. Mais le point principal, c'est que le capital mondial, pour ainsi dire, arrive, it hits the ground. C'est comme un avion, vous savez, ça arrive dans la ville globale et ça devient une force sociale complexe. Ça a besoin d'une maison, vous savez, de toutes les choses de la vie quotidienne. Alors, la ville globale, c'est un espace assez stratégique aujourd'hui, justement dans cette époque où il y a le capital mondialisé. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi stratégique pour cette mélange de citoyens, des immigrés, minoritaires ou minoritarisés. Vous savez ce que je veux dire. Minoritized. Vous savez qu'ils font, ils viennent produits comme des minorités, même s'ils n'ont aucune raison très spécifique pour le faire de minorité. Alors ces deux personnages deviennent dans la ville, dans ces villes complexes, et spécialement dans la ville globale, des acteurs sociaux qui peuvent à la limite aussi se trouver dans des espaces de contestation. Tout ça qu'avoir à faire avec la gentrification, par exemple. C'est un microcosme où ces deux forces se trouvent et font un peu de contestation. La gentrification, c'est la réhabilitation des espaces de quartiers urbains qui deviennent plus et plus chers, etc. Je crois qu'on connaît ça ici à Paris assez bien. Alors, ces politiques dans ces villes se manifestent sous des formes très spécifiques dans chaque ville. Et c'est précisément, cette spécificité vient précisément parce qu'elles ne sont pas totalement formalisées. C'est parce que ce sont des politiques du informel et pas formalisées que la spécificité de chaque ville entre avec beaucoup de force. Et ça quand même aussi c'est une manière de ground, de faire descendre aussi au capital mondialisé. Dans chaque ville, la dynamique c'est un peu différent. Alors ce sont des espaces concrets et stratégiques dans ce contexte mondialisé et dans un contexte d'une croissante zone, disons, pour les politiques informelles. C'est très important pour moi aussi de dire que même aux États-Unis, la grande puissance du moment, mais ça commence à se finir, je crois. J'espère que vous avez aussi parlé peut-être de la fin de l'Empire américain dans cette série. Mais quand même, si je parlerais en anglais, je dirais que the American Empire is now out of the closet. Vous savez, il n'y a pas de... c'est transparent maintenant. Mais même dans cet espace du pouvoir tellement militarisé aussi à l'intérieur des États-Unis, c'est une société très militarisée et le pouvoir est très militarisé par des intermédiaires comme la police ou la police de frontières, etc. Mais quand même, c'est militarisé. Mais même dans cette situation, il y a cet espace pour la politique de l'informel. Il y a une situation où le défavorisé, le minoritaire, trouve des possibilités de faire cette pratique de politique informelle. Et comme je dis ici, le cas de l'Amérique actuelle, c'est cependant tout à fait remarquable, car s'il s'agit d'une puissance politique, économique et militaire dominante dans le monde, et aussi parce que les États-Unis, comme vous savez bien, ont mis en place les restrictions les plus sévères est à certains égards, pour moi par exemple, inconstitutionnelles aux droits civiques, pas seulement des immigrés, mais aussi des citoyens. Alors, on vit aujourd'hui aux États-Unis d'une situation très, très sévère. Et l'argument que je fais, que c'est même dans cet espace tellement problématique, il y a la possibilité de ces politiques de l'informel, ces street politics. Ah. Alors, une grande demande, c'est toujours quels sont les espaces ouverts à la politique ? Et je crois que ça a changé beaucoup à travers du temps. On ne peut pas généraliser. Pour moi, par exemple, je crois que la ville, dans l'époque de ce qu'on appelait le Fordisme, vous savez, le keynésianisme, quand il y avait le syndicalisme, la classe ouvrière syndicalisée très fort, un État très keynésien. Dans cette époque, les années 40, 50, 60, ça commence à finir dans les années 70, mais dans cette époque, la ville n'était pas l'espace stratégique. L'espace stratégique, c'était justement la grande usine et le gouvernement. C'était là où se faisait la nouvelle politique, où on formalisait un contrat social entre travailleurs et État qui était informel, qu'on a fait la lutte là. C'était pas la ville. La ville existait. La ville avait des fonctions économiques et des fonctions politiques et des fonctions idéologiques, bien sûr. Mais c'était pas stratégique. C'était pas un espace de frontières. L'espace de frontières, à cette époque, c'était vraiment la grande usine. Et en plus en avant, c'était les mines, etc. Où on a fait de la nouvelle histoire politique formalisée. De nouvelles lois, de nouvelles régulations. Encore une fois, dans chaque pays, d'une manière un peu diverse. Et aujourd'hui, cet État qui se retire de l'espace politique, de ce contrat social, cet État qui est aussi envahi pour de grands pouvoirs économiques mondialisés qui se formalisent à travers du Parlement, de legislatures, non ? À travers du judiciaire. Il y a beaucoup de travail de faire de nouvelles lois maintenant pour générer de nouveaux acteurs formels dans cette nouvelle modalité du pouvoir économique politique. Alors, dans cette situation, la ville, comme espace complexe, espace un peu toujours anarchique, vous savez, la ville permet de lancer des nouvelles politiques. Et dans ce contexte, la ville devient espace stratégique aussi parce que de ce réseau d'une quarantaine de villes globales au monde entier, dans le sud et dans le nord, sont un espace stratégique pour le capital mondialisé, absolument stratégique. Alors, dans ce contexte où il y a aussi une grande croissance d'une population très hybride, disons, n'est-ce pas, de minoritaires, au cas des États-Unis, les Noirs, d'immigrés, le sans-papiers, des anarchistes, vous savez, comme militants, il y a tout. Alors, la ville devient cet espace de zone de frontière, disons, où se déroulent des luttes qui peuvent aussi déboucher dans une formalisation de certains aspects de ce nouveau contrat social, disons. C'est une manière de le penser. Et ce que je veux dire ici, que ça également se passe aux États-Unis, malgré cet irrésistible, il semble, renouveau du nationalisme et du patriotisme. Moi, comme Hollandaise, je ne comprends pas, j'avoue, le patriotisme. Je ne sais pas de ce que ça... Je ne comprends pas. Je comprends le contrat social entre l'État et les citoyens, je comprends la citoyenneté comme pratique politique, mais je ne comprends pas le patriotisme. J'ai beaucoup de problèmes, et je crois que c'est aussi la raison que moi, je suis une de ces chercheurs sur la mondialisation qui trouve de choses assez intéressantes avec la mondialisation, justement de ce que je parle maintenant, ces ouvertures, disons. Mais quand même, aux États-Unis, il y a tout ce nouveau nationalisme, ce patriotisme, mais il y a aussi cette nouvelle politique d'informel. Une manière de le dire, c'est que le système politique formel souffre d'une déstabilisation partielle dues aux profondes transformations actuelles, à la fois internationales, ou supranationales et subnationales. Il me semble très important de récupérer que le supranational et le subnational sont deux zones où la déstabilisation qui souffre le pouvoir politique formalisé permet de nouvelles pratiques politiques. Ça offre des ouvertures pour de nouvelles formes de politique, tant au niveau mondial qu'au niveau local. Et ça se passe même si c'est le niveau national qui demeure le plus prégnant et le plus institutionnalisé. On m'a donné ici un mot prégnant que pour moi, c'est quand on attend un bébé. Je n'ai pas utilisé ça en anglais, mais peut-être ça fait du sens. Alors, prégnant, l'état prégnant, je ne sais pas, ça m'amuse. Ce que je veux faire en sortir, alors, c'est une histoire de micro-transformation, de micro-espace, mais de plus en plus de pays doivent se rendre à cette évidence croissante. Cette dernière, c'est pas moi non plus. Au niveau international, alors je veux parler brièvement de ces deux niveaux, le niveau international et le niveau subnational. Au niveau international, la mondialisation et l'ascendant du système de droits de l'homme ont contribué à donner aux acteurs non gouvernementaux de possibilités légales et opérationnelles d'intervenir dans des domaines qui auparavant étaient l'apanage exclusif des États-nations. Ça, je trouve très important. Alors ça, c'est plutôt dans cet espace international. Diverses instances, bien que très secondaires, révèlent souvent que l'État n'est plus le sujet exclusif du droit international ou le seul acteur de relations internationales. On sort d'une époque où c'était l'État vraiment le sujet exclusif du droit international et aussi l'acteur, le seul acteur, disons, dans le rapport international. D'autres acteurs maintenant, comme les organisations non gouvernementales ou le First Nation People, les populations autochtones, les immigrés et les réfugiés qui deviennent de sujets de décisions internationales à travers les droits de l'homme, tous ceux et beaucoup d'autres émergent de plus en plus comme de droits, comme des acteurs dans le rapport international et comme des sujets du droit international. Je répète, ça sont de micro-transformations. L'État national est encore le plus grand acteur. Mais quand même, pour moi, c'est important de récupérer ces instances. Alors, ça veut dire que aussi, c'est une espèce d'histoire qui commence, disons. Ça veut dire que les acteurs non gouvernementaux, très généralement entendus maintenant, peuvent gagner en visibilité comme individus et comme collectivité et s'en sortir de l'anonymat de membres qui ont cette anonymité, disons, comme membres associés que leur impose l'État-nation représenté exclusivement par son souverain, alors le gouvernement. On ne parle pas d'une reine ou d'un roi, mais le souverain, c'est le langage de la loi internationale pour le gouvernement. Mais maintenant, je passe au plan subnational. Dans ce plan subnational, cette tendance accompagnée de mesures politiques comme la dérégulation, la privatisation néolibérale, etc., contribue à un démantèlement partiel de l'autorité exclusive sur un territoire et sur des habitants que nous avons longtemps associés à l'État national. Le lieu le plus stratégique, dans ma lecture, de ce démantèlement du pouvoir exclusif de l'État national est sans doute, pour moi, la cité globale. Justement parce que là, se mit en joue toute une série de choses qui ont à voir avec le mondialisé. Je voudrais dire deux ou trois choses sur cette question du politique néolibérale. parce que vous, en France, quand même, vous avez encore une situation beaucoup plus, disons, civilisée. Je sais que moi, si je serais citoyenne française, je serais plein de critiques. Je sens toujours de tous mes amis français, ah, c'est affreux. Mais quand même, aux États-Unis, à la Grande-Bretagne, c'est quand même très, très dur. Et je veux raconter quelque chose très micro pour illustrer la multiplicité de significats que peut avoir cette privatisation. La prison, le prison, non? The prisons. Maintenant, aux États-Unis, on le privatise de plus en plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la firme qui gestionne la prison a un rapport à la prison comme si ça serait un hôtel. De plus prisonniers, c'est comme de plus clients, c'est le mieux parce qu'il y a l'argent là. Alors, ça génère une distorsion subtile, mais quand même avec des conséquences. Et je prends cet exemple comme une espèce de dramatisation. C'est pas qu'on voit, on veut le moins possible de prisonniers. Mon Dieu, non. On veut le plus possible de prisonniers. Parce que chaque prisonnier, c'est comme l'avant d'un lit dans l'hôtel, n'est-ce pas, d'une chambre d'hôtel. Alors, si on s'imagine cet exemple répété dans de divers cas, on voit de manière très insinuante comment cette privatisation altère, transforme le rapport entre le citoyen et l'État national, intermédié par cette privatisation. C'est très sérieux, ça. Et on le voit dans beaucoup de domaines institutionnels. Alors, un peu comme ça, maintenant, sur la cité globale, qui est une espèce de plateforme en partie dénationalisée pour le capital mondial et émerge en même temps comme espace clé pour un étonnant mélange de populations venues du monde entier avec peu de ressources. Alors, pas nécessairement pauvres, mais quand même peu de ressources. Alors, il y a ces deux mondes que j'ai parlé déjà au début. L'intensité croissante de transactions entre ces villes à l'échelle mondiale crée pour les capitaux, pour les professionnels, pour les immigrés, pour les hommes d'affaires, pour tout, des géographies transfrontalières stratégiques qui évitent en partie l'État national. Alors, ce n'est pas seulement la ville elle-même, c'est aussi que cette architecture, si on veut, organisationnelle du capital mondialisé trouve ses endroits dans ces réseaux de villes globales. Comme je disais, il y a une quarantaine maintenant. Alors, ça veut dire qu'il y a beaucoup de transactions. En effet, ça croît entre ces villes. Il y a plutôt les professionnels, les hommes d'affaires, les capitaux, etc. Mais il y a aussi vraiment plus et plus d'autres types d'acteurs, inclus les immigrés. Alors on a une espèce de émergente géographie transfrontière qui connecte ces villes et qui dépasse ou croise l'État national. C'est pas seulement l'État, une collection d'États nationaux, ce sont des géographies très particulières qui entrent dans l'espace national et qui sortent. Et ça, quand même, a beaucoup potentiellement de conséquences. C'est encore une espèce de microprocessus. Ce n'est pas la plus grande partie des gens qui participent à ça, mais ce sont de nouvelles structurations qui font des réseaux qui contribuent aussi à ce démantèlement, si on veut, de l'autorité exclusive de l'État national sur son territoire et sur son peuple. Il y a dans cette dynamique de choses très négatives, mais il y a aussi la possibilité de choses très intéressantes, et spécialement pour des gens de peu de ressources qui peuvent aussi commencer à se mondialiser dans leur imaginaire, dans leur sens d'identité et possiblement dans leur pratique politique. L'intensité alors croissante de ces transactions, c'est pour moi une chose très intéressante de ces transactions entre ces villes. Les nouvelles technologies de réseau informatique renforcent davantage ces rapports transfrontaliers, qu'il s'agisse de transferts électroniques de services spécialisés entre entreprises ou de communication sur Internet entre les membres de diasporas et de groupes d'intérêt dispersés à travers le monde. Il y a, par exemple, une espèce de dynamique maintenant où le groupe diasporique, ce ne sont pas simplement là dans un rapport centralisé avec l'État d'origine, comme une espèce de géographie radiale, mais ils se communiquent par eux-mêmes, parce que même s'il y a 5 dans un pays, ils peuvent devenir partie, parce que l'Internet facilite beaucoup, d'une espèce d'imaginaire diaspora globalisante au lieu de cette radiale, structure radiale, n'est-ce pas, où c'est toujours l'État d'origine qui est au centre des transactions. Maintenant, il y a des autres possibilités. Alors ça aussi, je crois, a un impact très particulier sur cet rapport entre l'individu et l'État national. On peut considérer que ces villes et les nouvelles géographies stratégiques qui les relient font partie intégrante d'une émergente société civile mondiale. Et c'est sur toutes les strates, opérant à partir de multiples microespaces qui s'agrègent les uns aux autres. Parmi ces microespaces et ces microtransactions, il existe un ensemble d'organisations diverses chargé de questions transfrontalières comme l'immigration, le droit d'asile, les manifestations féminines internationales, la lutte anti-mondialisation et bien d'autres. Alors, il y a vraiment une espèce de croissante nombre d'organisations parfois très, très marginalisées qui ont à voir avec des sujets très marginalisés avec presque rien de ressources, mais néanmoins, ils peuvent commencer à se globaliser aussi, à se mondialiser. Et dans ce sens, ils commencent à faire partie, mais aussi à construire une espèce de société globale civile qui peut aussi exister pour le défavoriser, pas seulement pour, vous savez, les élites, le cosmopolitain et tout ça. Il faut aussi dire que beaucoup de ces organisations et de ces mouvements ne sont pas nécessairement urbains dans leur orientation originelle, dans leur opération géographique, mais quand même ils s'inscrivent dans l'espace urbain. Et ça peut aussi changer. Mais pour moi, c'est très intéressant de voir comme il y a vraiment une espèce de carte géographique urbain de beaucoup de réseaux de télécommunications pour les grandes firmes, non, les entreprises, mais aussi pour ces acteurs défavorisés. Il y a une espèce de carte, an urban map, et je crois que ça, c'est une espèce de structuration informelle qui génère un nouveau espace qui aussi contribue à ce démantèlement d'un territoire unifié, national, exclusif à l'État national, etc. Mais c'est plutôt informalisé, c'est au niveau de pratique. Et une manière de l'interpréter, c'est de dire que ce sont des débuts de nouvelle histoire politico-économique, politico-géographique, etc., etc. Les nouvelles technologies de réseau, j'ai dit ici, et en particulier l'Internet, ont paradoxalement renforcé l'implantation urbaine de ces réseaux transfrontaliers. Ce qui ne devrait pas être le cas, vraiment, parce que c'est une espèce de diffusion planétaire avec l'Internet. Mais les villes et les réseaux qui le relient fonctionnent aujourd'hui comme des ancres et facilite aussi au niveau politique de luttes transfrontalières. Ce même développement et conditions facilitent aussi la internationalisation de réseaux trafiquants et terroristes. Alors, il y a pour moi, dans toutes ces dynamiques, beaucoup de multivalence. Il y a du bon et il y a du pas tellement bon. Par toute cette conférence, je parle des choses qui... Il y a de bonnes choses et de mauvaises. La mondialisation a des choses très positives pour certains secteurs et aussi des choses très, très négatives. Alors, encore une fois, ici, on voit cette multivalence. Je voudrais dire à ce moment que cet aspect de l'informel, l'informel étant un espace très, très dynamique en formation, justement à partir de toutes ces déstabilisations qui produisent la mondialisation, quand même, on voit aussi, dirais-je, au niveau de l'État national, et si je fais un peu d'ironie, peut-être, pas l'État français, hein. L'État français, c'est encore très, très formalisé. Mais moi, j'ai fait une chose il y a 2 semaines dans un journal qui s'appelle The Guardian, très, très, très bon, à Londres. Et je fais ce commentaire, j'utilise l'image, comme on dit en français, le seigneur de guerre, warlords. Vous savez ce qu'on trouve en Afghanistan et en Afrique, non? Le seigneur de guerre, le seigneur de... Bon. Et je dis que, en fait, un warlord, un seigneur de guerre, est une figure politique qui dit toujours c'est mieux le bon good gun, non? Comment on dit ça, gun? Vous savez, non? Qu'une bonne loi. Alors, moi, quand je regarde l'administration Bush, pour moi, c'est du warlordisme. Vraiment, on voit ça plus et plus que. Une bonne guerre, c'est beaucoup mieux qu'un bon traité international de loi. Et après de faire ça un peu comme ça, vous savez, je suis commencée à penser jusqu'à quel point il y a aussi une espèce d'informalisation du politique qui offre de possibilités de nouveaux types d'interventions à l'intérieur de l'État national. Je crois qu'aux États-Unis, on voit ça. Comme j'ai dit au début, qu'il y a vraiment une espèce d'agression contre certains des droits civils, même des citoyens. Et à la limite, il y a beaucoup d'analyses par le legal scholars, vous savez, les connaisseurs de la loi, qui disent que ce sont inconstitutionnels. Ça veut dire quand même, dans cette analyse que je produis ici pour vous cette soir, que ces pratiques un peu informalisantes à l'intérieur de l'État national peuvent elles-mêmes aussi devenir formalisées et produire dans ce sens une espèce d'État beaucoup, beaucoup moins démocratique, libéral, etc. de ce qu'on a vu, on a vu jusqu'à maintenant aux États-Unis et dans d'autres pays. Alors pour moi, comme je disais au début, ce sont une série de micro-transformations, de micro-espaces institutionnels. Et il faut l'interprétation pour le voir, pour le remarquer, pour ainsi dire. Et ça veut dire, on parle d'interprétation, on parle de beaucoup de différents types d'interprétations à la fin. On ne peut pas dire, ah, ça c'est une analyse objective. Mais quand même, mon interprétation, c'est un peu que c'est bien possible, je ne sais pas si ça se va passer, mais c'est bien possible qu'on ait vraiment entré dans une phase politique de transformation assez importante. Ça peut durer 50 ans pour une formalisation pleine de cette transformation, mais je ne crois pas qu'on va retourner à cette forme de laquelle on est sorti, ou la forme la plus achevée peut-être, c'est la démocratie sociale ou la social democracy et l'État keynésien, où l'État national vraiment, même si c'est toujours partiel, cherche d'établir un projet de démocratie sociale, disons. Très imparfait aux États-Unis, toujours, hein, beaucoup de formalisation, d'exclusion, beaucoup moins imparfait. Regardez la précaution de mon langue ici, moins imparfait, hein, peut-être dans un pays comme la France ou les Pays-Bas, ou, jamais parfait. Rien n'est parfait, je trouve, dans le monde social humain. Mais quand même, alors, c'est bien possible qu'on commence à entrer dans une nouvelle étape où ces micro-transformations, ça ne va pas éliminer l'État national, ça ne va pas éliminer le Fonds monétaire international, ça ne va pas éliminer le sans-papier comme sujet, comme personnage légaux, non-légaux, disons, n'est-ce pas? Mais ça commence à implémenter des changements quand même. Alors, toute cette chose informelle que je parle ici, je crois qu'il faut aussi le rechercher à l'intérieur de grandes structures de l'État. Encore une fois, chaque pays va être divers. Et encore une fois, moi, je ne crois pas que ça signale la fin de l'État national. Parce que l'État national, c'est aujourd'hui la capacité administrative la plus développée qu'on a. Mais c'est une capacité administrative que commence à gérer de domaines institutionnels qui privilègent, par exemple, les grandes entreprises mondialisées et moins le citoyen moyen. De citoyens très privilégiés, peut-être encore aussi, ça va très bien là en haut. Mais vous savez, alors, ce sont de, encore une fois, ce sont des filières très très particulières qui traversent tous ces mondes formalisés au niveau supranational, au niveau national et au niveau subnational. Alors, retournons maintenant à cet espace subnational. On pourrait dire que les grandes villes fonctionnent comme des espaces où des acteurs politiques informels ont la possibilité de participer et d'intervenir sur la scène politique. Cela leur serait bien plus difficile sur le plan national, où la politique passe nécessairement par des systèmes formels établis, qu'il s'agisse du système politique électoral ou du système judiciaire. La possibilité de faire un processus à l'instance de l'État, je crois que maintenant vous avez ça aussi comme droit constitutionnel en Europe depuis le dernier 20 ans. Aux États-Unis, ça a longtemps été un droit constitutionnel que nous avons comme citoyens, mais en Europe, c'était un droit moins fort au niveau de statut. Même dans les derniers 20 ans, divers pays ont constitutionnalisé ça aussi. Je me demeure sur ça parce que je crois que ça va devenir très important comme un instrument pour faire de politique qu'il y a 30 ans, 40 ans, on faisait à travers du Parlement. Et je crois ça parce que la structure de partis politiques est problématisée aujourd'hui, parce qu'ils sont à la fin partie de l'État national formalisé, et ça veut dire que ça commence à exclure plus et plus de choses. Ça, soit ça le capital mondialisé, soit ça tous ces acteurs, tous ces sujets politiques qui ne sont pas tout à fait membres de partis ou parlementaires, alors un peu informels ou qui ont des projets de revendications politiques qui sont vraiment diverses de ce que c'est la politique formelle. Je trouve que le judiciaire devient un espace de contestation, de lutte politique très très important. Dans le judiciaire aujourd'hui, c'est beaucoup différent dans la France où vous avez encore le code napoléonique, n'est-ce pas, que c'est quand même d'une très formalisé. Mais je me demande, c'est une demande, vraiment je ne sais pas, et peut-être il y a des gens ici qui connaissent, mais je me demande si même dans ce système tellement mondialisé, il y a des possibilités d'introduire certains types de luttes ou de processus parmi le judiciaire dans un pays comme la France, je ne sais pas. Mais c'est certainement le cas au niveau international avec les droits humains et le nouveau tribunal War Crimes Tribunals, le tribunal pour le crime de guerre, vous savez, et aussi dans le pays de lois comme les États-Unis, Common Law, beaucoup moins formalisé, le judiciaire est devenu une zone très très stratégique pour la lutte politique, d'une manière que la législature, votre parlement, n'est plus. Parce qu'il y a une corruption totale, même si ce n'est pas corruption d'individu, mais du système qui finance les élections. Alors, le parlement, c'est très limité aujourd'hui, mais le judiciaire devient très intéressant, mais je répète, aussi au niveau international. Mais quand même, retournons aussi au slide. Dans l'espace de la politique nationale, les acteurs politiques informels sont exclus et deviennent invisibles. Je dois maintenant expliquer un peu, et c'est dans le document écrit que je serais très contente d'envoyer par email, mais je m'imagine que pas tous vous vont demander parce que ça pourrait être trop peut-être, mais quand même, sur le website, j'élabore beaucoup sur ce que je veux dire sur cet mot, les acteurs politiques informels. Ce sont des acteurs qui peuvent être citoyens, ou peuvent être des immigrés, ou peuvent être des sans-papiers, peuvent être de... Mais la chose, c'est que ce sont des politiques, ce sont des luttes politiques qui ne passent pas pour le système formel politique, ou parce qu'il n'y a pas... il n'y a pas la possibilité de faire ce type de politique par le système formel, ou parce que les gens n'y croient plus au système formel. Alors, ils font leur propre politique. Alors, ces acteurs peuvent être des immigrés sans papier, mais ils peuvent faire la street politics. Ils peuvent faire des démonstrations contre la brutalité de la police, par exemple aux États-Unis, contre la réhabilitation urbaine qui ne les permet pas l'accès à housing, etc. Alors, beaucoup de choses comme ça. Je fais dans le document une élaboration assez détaillée aussi sur comment, dans le moment aujourd'hui, le sujet du citoyen devient un peu blurred. J'utilise ce beau mot anglais, blurred. Blurred veut dire que ce n'est pas totalement clair, n'est-ce pas? Ce sont des micro-transformations. Le cas le plus brutal, c'est bien sûr aux États-Unis, où on nous a pris des droits que nous avions. Alors, soit ça le welfare state, l'État bénéficiant, n'est-ce pas? Soit ça de droits. Par exemple, il y a 10 ans, moi, je pouvais faire un cas à la... officine d'immigration, la police d'immigration aux États-Unis. Maintenant, je ne peux plus faire ça. Moi, j'ai fait une analyse où j'analyse, même nous comme citoyens, on nous a retirés, et pas arabes, et les arabes, c'est encore plus, hein, c'est vraiment sérieux, mais on m'a retiré de droit. Et si je serais pauvre, de droit à partir du welfare state. Alors, je dis que dans ce contexte aussi, encore une fois, de privatisation, le rapport entre l'État national et le citoyen change. Et dans ce sens, ce que ça veut dire d'être un citoyen devient un peu blurred. Vous savez qu'en l'image, ce n'est pas trop clair. Bruit. Ah, bruit. Alors. Et je dis que, de l'autre côté, le émigré, même l'immigré sans papier, qui habite pour un temps long dans une communauté, qui fait, au niveau de vie quotidienne, le pratique même, le même que le citoyen. Il porte ses fils à l'école, il le donne, il va à la police quand il y a des problèmes, à l'hôpital. Ces immigrés sans papier, pas autorisés, peuvent développer une espèce de contrat social informel dans leur communauté, pas au niveau national, pas au niveau de ville même, pas dans leur communauté. Alors, et quand l'immigré sans papier devient le sujet d'une action judiciaire à partir des droits humains, cet immigré pas autorisé accumule un élément légal partiel. Par exemple, aussi quand un juge donne le droit à l'immigré sans papier à être payé pour le travail qu'elle a fait, le corps, la personne de l'immigré pas autorisé devient le répositaire d'une légalité partielle. Alors ça aussi brouille, ça blurre le sujet de l'immigré pas autorisé. C'est pas deux extrêmes clairs, pas les citoyens, pas. Ce sont deux extrêmes. Vous voyez, je fais un peu dramatique ici pour communiquer. Mais alors, il y a toute une série de changements qui on peut aussi récupérer au niveau de deux sujets fondamentaux pour ce que c'est la membership, n'est-ce pas, la appartenance dans notre société moderne, qui c'est le citoyen et le alien, on dit en anglais, l'immigré autorisé. J'ajoute à ça aussi l'immigré pas autorisé. Alors, ces changements vraiment déstabilisent un peu ces deux sujets fondamentaux. Et ça se passe au niveau informel et au niveau formel. Il y a après toute une série d'imaginaires qui commencent à produire une espèce d'expérience du mondialisé, et spécialement pour des activistes de droits humains, de l'environnement, n'est-ce pas, vous savez ce que j'ai dit, de certaines pratiques du féminisme, des choses comme ça. Alors, ce que ça veut dire le citoyen aujourd'hui, il faut le problématiser un peu. Je répète, ce sont tous des micro-transformations, mais c'est ça qui m'intéresse. Moi, je pense toujours à moi comme chercheur, digger, vous savez, le digger, comment on dit ça? C'est qu'on fait quand je veux faire une plante dans la terre, vous savez, c'est ça, le digger. Moi, je veux entrer en profondeur dans ce micro-espace où on détecte de petites transformations. Il y a des autres possibles interprétations, on peut se retirer, prendre une grande distance de tout ça et dire, vous savez, rien n'a vraiment changé beaucoup. C'est très valide aussi cette position. Ça dépend vraiment où est-ce qu'on va localiser son point d'entrée dans le sujet, disons. Alors, je veux répéter cette dernière phrase-là, que dans l'espace de la politique nationale, il y a ces acteurs politiques informels qui sont exclus. Même s'ils sont des citoyens, ce n'est pas une question d'être ou ne pas être citoyen ou immigré autorisé. Et dans ce sens, de la perspective de la politique formelle nationale, il devient invisible. Pour moi, un cas très important de ça, c'est la femme comme femme de ménage, the housewife. Vous savez ces mots? There are fewer and fewer. Il y a de moins et moins femmes à ménage. Je m'explique, n'est-ce pas? Alors, le maire, le sujet que c'est la mère, qui peut aussi être une professeure, mais comme mère, elle n'est pas un sujet politique formel. On pense maintenant à la mère de la Plaza de Mayo en Argentine. Vous savez, las madres, moi je me suis devenue adulte, si on peut dire ça, en Argentine. Alors, las madres de la Plaza de Mayo, non, qui dans la dictature militaire, ils sont devenus des sujets politiques en tant que mère. Au niveau du formel politique national, le sujet de mère, ce n'est pas un sujet formel politique. C'est pas. On voit ça aussi avec le maire au Salvador, qui allait chaque jour aux prisons pendant la guerre civile des années 80, couvert avec des choses blancs, vous savez. Ils étaient là. Il était là comme des maires. Pas comme de, vous savez, militants, comme des mères. Maintenant, le femme au noir, au Israël, qui sont pas très visibles, il faudrait vraiment, ils vont là aussi comme des femmes, etc. Alors, il y a, quand je parle de sujets informels qui sont invisibles au niveau du politique national, je parle vraiment de beaucoup de acteurs. Je pense aussi aux gays, lesbians et queers. Je sais pas comment on dit queer en français. Qui sont aussi des sujets, quand ils font la lutte pour leurs revendications, ils deviennent des sujets politiques, mais ils sont des sujets politiques informels, ça n'existe pas au niveau. Alors il me semble que dans les villes, ce qu'on voit, c'est une espèce d'explosion de ce type de politique, très partielle, très particulière, très un peu anarchique, etc. Et c'est ça que c'est invisible au niveau national, formel. Alors, ici, on peut, comme conclusion, dire que ces villes abritent, ça c'est un nouvel mot pour moi, abrite. J'aime beaucoup, accommodate. C'est quand même très intéressant de faire une conférence dans une langue qu'on ne connaisse pas très bien, spécialement quand on se trouve avec des mots qu'on n'a jamais entendus. Alors, je dis encore une fois, ces villes abritent un très large éventail d'activités politiques. Les squats, ah, je connais ces mots, on dit ça en français, hein? Les squats, les manifestations contre la brutalité policière, lutte pour le droit des immigrés et des sans-abri, politique culturelle et identitaire, comme des reconnaissances des homosexuels et lesbiens et des queers. Et voilà. C'est de plus en plus perceptible au niveau de la rue. Une bonne partie de la politique urbaine est concrète, est plutôt mise en œuvre par la population elle-même et pas par une massification des technologies médiatiques. La street politics permet la formation de nouveaux types de sujets politiques qui, pour exister, n'ont pas à passer par le système politique formel. Il existe précisément dans cette pratique. J'ai fait beaucoup d'attention dans cette dernière page-là sur un peu la lutte politique, n'est-ce pas, et aussi les pratiques politiques dans la rue. Ben, je veux répéter quelque chose que j'ai dit en passant. Et c'est que ça, on peut aussi trouver dans des manifestations qui ne sont pas, bah, dans des situations qui ne sont pas des manifestations comme ça. Et c'est ce que je disais de la transformation du sujet de le citoyen, n'est-ce pas? Alors, il y a toute une analyse pour moi dans cette situation qui a à voir avec des choses qui ne sont pas légibles au niveau de la rue, mais qui se passe aussi, la production des identités, la production de certains types de sujets qui passent aussi au niveau des imaginaires, au niveau d'une ouverture transnationale, etc. etc. Alors, je finisse avec encore cette notion que la condition de la manque de pouvoir est une condition très complexe qui n'est pas simplement une question d'absence, absence de pouvoir, absence de ressources, absence de possibilités, et qui n'est pas non plus simplement une condition de victime, disons. Cette condition de manque de pouvoir dans certains espaces complexes devient elle-même complexe et peut produire une série de possibilités de commencement de nouvelles micropolitiques. Pour moi, qui recherche la mondialisation et que je suis toujours voyagée, j'étais en Uganda, vous savez, c'est très différent d'ici, mais ça se répète. Il y a des dynamiques qui se répètent. Quelqu'un a décidé que... Ah, voilà, ça retourne. Quelqu'un a décidé... c'est une espèce de centre de politique qui se répète dans chaque espace de ville avec ses propres modalités. Mais quand même, ça se trouve à Kampala aussi. Je prends ça comme un exemple parce que j'étais justement là. Je trouve ça très intéressant. Et je trouve qu'il y a des possibilités. Mais encore une fois, il y a de la multivalence, il y a de bonnes choses dans ça, il y a aussi des choses très mauvaises. Je finis en vous remerciant pour votre patience et tolérance de ce français très élémentaire. Merci beaucoup.
Vous avez parlé du pouvoir judiciaire aux États-Unis ou en France. En France, le pouvoir judiciaire, on pourrait y ajouter aussi le pouvoir des médias, comme d'ailleurs aux États-Unis ou partout dans le monde. D'autre part, je voudrais aussi préciser qu'en France, toutes les histoires judiciaires que nous avons connues récemment concernant les hommes politiques n'ont absolument pas influencé le vote des citoyens, puisque certains ont été réélus et d'autres sont toujours au pouvoir. D'où un doute dans l'esprit du citoyen français sur la qualité de sa justice. J'aimerais donc que vous puissiez, si vous pouvez, me répondre sur l'efficacité du pouvoir judiciaire.
Oui. Alors, je réponds très brièvement parce que je ne connais pas, vous savez, mais ce que je sais, que vous avez un système très formalisé qui ne donne pas les possibilités que nous avons, par exemple, aux États-Unis. Mais il faut dire qu'aussi aux États-Unis, c'est que le judiciaire n'est pas réussi quand même à changer la situation de ceux qui ont pouvoir et le pouvoir d'abuser la loi. Soit ça, le Enron, vous savez, la grande entreprise qui a fait beaucoup de fraude, soit ça avec beaucoup de gens politiques. Oui, peut-être ils vont en prison, mais ça ne changeait pas la structure du pouvoir, ça c'est vrai. Quand même, il faut, c'est là où il faut aller creuser. Aux États-Unis, par exemple, il y a maintenant un groupe d'avocats qui ont lancé une action contre 9 grandes compagnies mondialisées, américaines et étrangères, qui utilisent une cour nationale, un instrument légal national, l'Alien Torts Act, pour ceux de vous qui connaissent ça, pour accuser, pour faire jugement, pour faire processus à ces firmes multinationales américaines étrangères pour des actions qu'ils font contre leurs travailleurs en dehors du pays. Alors, vous avez le fabrique en Chine, au Mexique, etc. Aucune pensait qu'on pouvait faire ça. Le Alien Torts Act, l'instrument légal qu'on a utilisé, n'avait jamais été utilisé pour ça. Et maintenant, en effet, notre avocat général, vous savez, le ministère de la Justice, non, le ministre de la Justice, a décidé d'éliminer cet acte. Alors, il y a vraiment la... Vous savez, alors, je sais que votre système judiciaire est complètement différent. Je me demande s'il y a là des possibilités aussi de mobiliser les ressources qui représentent un système national de loi pour lancer des luttes. Aux États-Unis, on n'utilise pas suffisamment, mais il y a des fois où vraiment il y a une mobilisation par des secteurs très particuliers et on peut utiliser la loi. Mais moi, je dis toujours qu'il y a des instruments légaux qui sont là à dormir dans des shelves, vous savez, dans le... plein de poussière,
grenier.
Dust. Il faut aller le chercher. Il faut aussi changer du dehors. Mais il y a beaucoup plus de ressources parce que c'est notre loi. C'est imparfaite. Alors, il n'est pas suffi d'avoir la loi. Il faut l'utiliser. Il faut l'utiliser pour beaucoup d'autres buts. Ce que je ne sais pas, et je m'excuse, c'est si dans votre système judiciaire, il y a cette possibilité d'utiliser de vieux instruments légaux pour de nouvelles luttes judiciaires. Ça, je ne sais pas. Mais j'ai remarqué ce que vous avez dit. J'ai suivi ça dans le journal, vous savez, et c'est vraiment un scandale, je trouve, ça qui s'est passé avec plusieurs des cas judiciaires que vous avez eus. Hein. C'est quand même le pouvoir qui ne se permet jamais de faillir. The power doesn't allow itself to fail. Vous savez, c'est...
Bon, je passe à ma question. Ça concerne le mot informel. Vous avez répété plusieurs fois ce mot.
Oui.
Alors, qu'est-ce que... d'abord, qu'est-ce que vous entendez par là? C'est une petite question. Mais deuxièmement, est-ce que vous pensez qu'il faut rendre formel ce qui est informel? C'est-à-dire donner la forme à l'informel.
Je comprends.
Ou bien Est-ce que vous pensez qu'il faut prendre en compte l'informel comme l'informel?
Oui.
C'est-à-dire que l'acteur politique informel s'engage dans la vie politique tout en étant informel.
Oui. Bon. Totalement d'accord. Ouais. Oui. Non, il y a plusieurs choses ici. J'ai dit informel, pas encore formalisé, et ce qui est disparu du texte, c'est aux deux acteurs et des formes du politique qui ne seront jamais formalisées. Je suis tout à fait d'accord avec le point final que vous faites, qu'il y a, il doit y avoir toujours peut-être deux acteurs et des formes du politique informelles qui font partie du, je dis en anglais, the landscape, le paysage politique. Mais paysage ne sont pas bons. Je dis de l'espace politique. Alors, ça se passe toujours. J'ai une analyse sur la citoyenneté, par exemple, comme institution très formalisée, mais toujours ouverte, incomplète. Et elle ne peut jamais devenir complète. Parce qu'elle doit toujours être en dynamique, dans un rapport très dynamique avec la condition du moment. Pas complètement ouvert, ce sont des micros. Mais alors, je crois qu'il y a toujours, il faut toujours l'informel dans la zone du politique. Et pour moi, la ville, c'est pour ça très intéressant. Et le supranational aussi, parce que le supranational et le subnational sont des espaces qui échappent à cette machine formalisante qui est l'État national. Et pour une partie, ça veut aussi dire que les grandes entreprises mondialisées utilisent l'État national, même l'État français, pour formaliser leurs nouveaux droits, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux droits qui ont accumulé cette entreprise. Alors, pour moi, c'est il faut avoir des espaces où l'informel peut être actif et pousser de nouvelles dynamiques. Certaines de ces dynamiques vont se formaliser pour le bon ou pour le mal, il y a toujours la multivalence là, et des autres ne seront jamais formalisées. Alors il faut. Vous me demandez ce que je veux dire avec l'informal. Je l'utilise un peu dans un sens relatif et relativisant, dans le sens qu'il y a le formalisé qu'on reconnaît et que je utilise d'une manière assez étroite. Alors, moi, comme citoyenne, le système formel politique me permet de faire l'élection et de faire le processus judiciaire. Ça, ce sont des activités formelles du politique que moi, comme individu, j'ai. Si je suis une parlementaire, j'ai des autres. Alors, en juxtaposition à ça, je veux une espèce de catégorie hybride qui me permette de abriter, hein, voilà, tout un mélange de secteurs. C'est un peu comme ça. J'aimerais bien de répondre avec beaucoup plus de temps à chaque question, mais je ne crois pas que c'est juste parce que, oui.
Je voulais juste vous demander quelle est la relation entre, parce que vous êtes partie de la ville globale, avec, donc, moi je pense immédiatement à New York, Tokyo, etc. Alors ces villes avec ces élites, ces services hautement spécialisés et tout ça,
oui.
Où la fracture est tellement grande avec cette autre zone dont vous nous avez parlé, qui oui. nous a tellement touchés et où on a vu que peut-être on a des choses à faire, nous aussi. Alors, pourquoi vous êtes... Parce que moi, je vois l'avenir, je vois que ça s'écarte, la différence entre les deux mondes, les élites oui. de ce monde global hautement oui. spécialisé, oui. et ces gens qui viennent à faire quoi?
Oui.
À nettoyer oui, oui. les bureaux, et pourquoi il y a cette course?
Oui.
Quel est le rapport?
Non, non, il y a deux ou trois points pour répondre. Il y a plus de trois villes globales. Je sais que moi, dans mon livre, mais depuis 10 ans de travail, j'ai dit, alors, c'est fini. Aussi mon mari a dit ça, fini. Alors, mais maintenant, j'ai fait une nouvelle édition de ce bouquin qui est sorti maintenant il y a un an, et je parle vraiment d'un réseau de 40, à plus, ça change un peu, hein, Buenos Aires est tombé un peu dehors, etc., avec la crise, et 5 grandes villes Francfort et Paris et New York, Londres et encore Tokyo, même si moins complexe comme ville globale de ce qu'elle était il y a quelques ans. Alors c'est quand même, il y a Bangkok, il y a Sao Paulo, Mexico City, Sydney, Jakarta, il y a beaucoup de... Et dans chaque ville, ça se mobilise de manière très spécifique. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, la plus grande partie de gens, la plus grande partie des entreprises, la plus grande partie d'opérations, de gouvernement, ne se passe pas dans ces villes. Ça, c'est un monde très partiel et ça fait partie très petite de tout ce que c'est la vie du social. La plupart de Français ne sont pas à Paris, même si Paris est très grande, n'est-ce pas? Il y a deux raisons que moi, je regarde ces espaces de ville globale, etc. Un, c'est que je ne peux pas faire tout. C'est vraiment un travail collectif. Et je crois vraiment qu'il faut de la profondeur dans la connaissance. Alors, je sais qu'il y a, parce que moi, j'ai aussi parlé avec des gens qui font un travail parallèle à ce que moi, je fais pour les zones rurales. Parce que les zones rurales, dans certains cas, deviennent de lieux très intéressants aussi, où on peut lire beaucoup de grandes dynamiques. Vous savez, maintenant, aux États-Unis, on parle d'un troisième monde rural et d'un espace rural capitalisé, corporatif, n'est-ce pas, agribusiness. Alors, mais moi, deuxièmement, pour ce type de choses que je parlais aujourd'hui, la ville complexe est quand même très intéressante, très importante. Il y a une grande demande là, est-ce que la ville complexe simplement rend lisible ce que je parle, ces politiques informelles, ou est-ce qu'elle aussi permet aux gens de devenir de sujets politiques? Et ici, on pense bien sûr à Lefebvre, par exemple, non, qui parlait de la ville comme œuvre, que l'espace de la ville, c'est quand même un espace qui génère, qui produise. Pour lui, il regardait les grandes villes en France aux années 40, 50, 60, 70. C'était la classe syndicalisée qui devenait sujet politique précisément dans l'espace de la ville, même si la bourgeoisie, c'était la classe qui pouvait en tirer le plus ressources et plaisir de la ville. Mais il a dit assez clairement que la classe syndicalisée peut devenir sujet politique dans cet espace de ville, que ce n'est pas seulement Paris, hein, ce sont toute une série de villes. Alors pour moi aujourd'hui, la ville globale, c'est un espace qui permet au capital mondialisé de se faire légible, transparent, comme force sociale, à la marxiste. Hein, j'utilise la catégorie marxiste quand je dis force sociale, social force, non? Je ne sais pas comment on dit en français, là, mais c'est comme une image aussi que communique. Et aussi à ce mélange hybride de tout type de gens qui ne sont pas en harmonie politique non plus. Les queers, le sans-papier, les anarchistes, les artistes de direct action, non? Tout le monde aussi de devenir force sociale. Ce n'est pas la classe syndicalisée. Alors, pour moi, c'est un espace qui fait lisible, mais aussi un espace producteur de cette, et c'est une, il y a une grande fragilité dans cette condition d'être force sociale, hein. Et ça n'a pas les instruments qu'a la classe syndicalisée il y a 20 ou 30 ans. Alors c'est un peu pour soi. Vous dire qu'est-ce que se passe dans d'autres espaces, je ne me le permettrai pas parce que je crois vraiment qu'il faut de la connaissance en profondeur. Et une des raisons que moi je voyage tellement, c'est justement pour faire réseau avec beaucoup de gens qui travaillent sur ces thématiques dans l'espace ville, dans l'espace urbain, dans des autres espaces. Parce qu'il y a aussi, il y a des autres espaces, c'est pas seulement le rural et l'urbain, hein. Il y a aussi le digital, il y a beaucoup d'autres espaces.
Oui, Pardon, par avance, de poser une question qui ouvre déjà le prochain cycle, mais je voudrais vous demander si vous considérez aujourd'hui Paris comme une ville globale. Qu'est-ce qui, il y a quelques années, vous empêchait de considérer Paris comme une ville globale, justement clivée entre les très riches et ceux qui sont au service des très riches? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, pour vous, Paris pourrait devenir une ville globale?
Mais j'ai toujours dit que Paris était une ville globale. Je n'ai pas bien compris si vous avez dit ça ou non. Mais il y a deux choses. Pour moi, et là, j'ai une perspective assez particulière. Je crois qu'il y a un système mondialisé qui vraiment a besoin, pour fonctionner, de s'implanter dans des espaces très complexes qui ont beaucoup de ressources, etc., n'est-ce pas? Alors, les villes globales. Mesure à mesure que l'économie s'est mondialisée et que ça a intégré à plus et plus de pays, et ça c'est une histoire très courte, des dernières 15 ans, ce système mondialisé a expandu le nombre de régions, des espaces, des villes où ça s'est implanté. Pour l'Amérique latine, vraiment, c'est au début des années 1991, que ça commence vraiment avec... Il implémente des politiques de déréglementation, de privatisation, et ça, c'est tout, c'est très important. Alors, ça veut dire qu'il faut l'espace Mexique, l'espace Sao Paulo, l'espace Buenos Aires. On voit des transformations énormes dans chaque ville. Paris, Francfort, Amsterdam, ce sont de vieilles villes complexes. Ce sont aussi de villes qui ont, dans le contexte particulier que c'est l'Europe, toujours eu comme ville de grands espaces très bien aménagés. Vous savez, il n'y a pas la situation comme des grandes villes américaines où il y a une espèce de destruction régulière des grandes zones, n'est-ce pas? Et alors, le renouvellement de l'espace urbain qu'on a vu dans les années 80 et 90, c'est une espèce de... une chose très, très visible. Dans une ville comme Paris, dans une ville comme Amsterdam, et c'est divers, ce processus. Mais le point que je cherche de faire, c'est qu'il y a une espèce de division de fonctions très spécialisées. Et ça, c'est, je crois, mon particularité dans un contexte où beaucoup de gens qui font le travail sur les villes et l'économie mondialisée parlent de competition. Et oui, il y a la competition, mais ce système mondialisé duquel je parlais a besoin, et spécialement au niveau plus important stratégique, de fonctions très, très spécialisées. Alors, ce que fait la différence pour Paris, c'est justement sa différence spécialisée. Je parle de specialized difference. Et la même pour New York, c'est différent de Londres, c'est différent de Francfort, c'est différent de Paris, etc. Par exemple, ce que vous avez en France, c'est une structure, une organisation, vous savez beaucoup plus de ça que moi quand même, une organisation du capital à travers du système bancaire, à travers du système de très, très grandes entreprises, hein, de multinationales très grandes, qui fait une grande concentration à travers de très peu de firmes, d'entreprises, de capital. Aujourd'hui, il faut avoir accès à des niveaux de capital. Pouvoir mobiliser des capitales à grande échelle, ça aide beaucoup si on a une structure du capital qui concentre. Votre système bancaire est très concentré comparé avec beaucoup d'autres pays. Ça veut dire que très très vite, vous avez un capital énorme. Alors Paris, c'est un grand centre que produise capital. Et le produise très vite, parce que vous avez très peu de grandes banques, et ça fait comme ça. Ça, c'est très important, la vitesse avec laquelle on peut mobiliser. Après, il y a de formes d'expertise en grande profondeur qu'il y a la France. La France, c'est le numéro un avec le fiber optic installation. il y a trois grandes entreprises qui ont de la capacité. Deux sont françaises. La France est numéro un avec l'eau, n'est-ce pas? L'eau, tout ce que c'est l'eau, vous êtes la grande, tous les grandes multinationales de l'eau. L'eau en Argentine, maintenant, c'est tout propriété de Français, pour ainsi dire, n'est-ce pas? Alors, vous avez de... Vous êtes l'exportateur numéro 2 dans le monde de services très très avancés quant à voir avec les ordinateurs. On aurait pensé que ce serait les Allemands. Non, c'est le français. Vous avez aussi une zone, que c'est une héritance de votre empire, une zone mondialisée très spéciale avec des implantations très importantes dans l'Amérique latine, très importante maintenant, ça c'est nouveau, hein, et très importante dans l'Afrique, ça c'est vieux, dans certaines autres zones du monde. Alors, vous avez pas seulement la France profonde, vous avez une connaissance profonde du mondialisé qui peut être... Maintenant, vous avez aussi les Euronext, n'est-ce pas, que Paris a développé le marché de stock market, non? Avec Madrid, avec Amsterdam, etc. C'est trop. C'est trop pour ne pas être... une ville mondialisée très très importante. Vous êtes un acteur. Il y a des autres nouvelles histoires que moi je dirais le débat autour d'Irak rend visible. J'ai fait un commentaire aux États-Unis, on m'a demandé qu'est-ce qui se passe avec l'économie mondialisée, avec toute cette polarisation politique, non, entre la France, la Chine, l'Allemande, la Russe, les États-Unis. Et moi, j'ai dit qu'en fin de compte, ça peut renforcer ces espaces impérialistes d'influence politico-économique qui ont eu chaque de ces grands pays, aussi la France. Alors, et dans le cas de cette pôle, la France, avec toutes ses formes profondes et de connaissances et de capacités, devient un ancre très important pour cette pôle. Vous savez, j'exagère un peu l'image pour communiquer, mais c'est un peu comme ça. Alors Paris devient plus important, je crois, aujourd'hui, de ce qu'elle a été peut-être il y a 15 ans. Dans cet contexte mondialisé, qui est un contexte très particulier et très partiel, hein, il faut dire que pour moi, la mondialisation, c'est une condition très partielle. La plupart de l'économie, c'est national. Aux États-Unis, vous savez très bien que la France est beaucoup plus mondialisée que les États-Unis. Hein. La grande différence, c'est que les États-Unis se projettent sur tout le monde. Ben, c'est beaucoup plus national comme économie que la France, en termes relatifs. Quand c'est passé le septembre 2001, on m'a fait beaucoup de demandes de partout. Alors, Londres va remplacer aux États-Unis, à New York. Et ça m'a fait penser, j'ai dit, regardez, tous les deux sont très internationaux, mais l'internationalisme qu'on vit global de Londres est très différent de l'internationalisme de New York. Et je crois que Londres, c'est un peu comme Paris. L'internationalisme des États-Unis, c'est un internationalisme de projection au niveau mondial de grandes firmes américaines. Et maintenant aussi les militaires, hein. L'internationalisme de Londres, c'est une espèce de dénationalisation à l'intérieur de Londres. C'est-à-dire que de petits capitaux du Tchad, n'est-ce pas? Le Tchad, c'est plutôt français, non, c'est pas un bon exemple. Vous avez d'une petite colonie au passé, hein, peut venir à Londres, Londres peut recevoir ce petit capitaux. Et Londres peut après le redistribuer par tout le monde. Londres reçoit le japonais et le français, les firmes qui vont faire du travail avec l'espace européen. C'est incroyable, ça. Je crois que Paris n'est pas tant comme Londres. Hein. Paris n'est pas dénationalisé, mais c'est quand même une espèce de capacité française que ce projet sur une zone d'influence mondialisée plus et plus grande. Et avec, vous êtes state of the art en France, avec beaucoup de choses techniques, hein, faut dire. Peut-être vous, comme Français, vous voyez seulement quand le train ne marche pas. Mais quand même, c'est une autre histoire. Vous êtes une autre histoire et c'est un autre niveau de ce qu'on voit dans, aux États-Unis, par exemple. Beaucoup plus moderne, beaucoup plus moderne au niveau des sociétés que... Nous avons au niveau médical, parce que toutes les élites, vous savez, ils veulent vivre pour toujours. Hein. Alors, on a un système médecin extraordinaire. Mais le reste, on n'est vraiment pas aussi moderne qu'on est, par exemple, en France, avec beaucoup de choses. Il faut aller aux États-Unis pour le voir. Alors, je crois que l'heure est arrivée.
Je vous remercie.
Moi, je suis
beaucoup.
Contente, mais quand même...
Merci.
Thank you.